L'école du troisième type est toujours nécessairement une petite structure dont la taille est proportionnelle aux capacités langagières et relationnelles du groupe d'enfants qui l'occupe, aux espaces cognitifs auxquels leur langage leur permet d'accéder, à l'évolution de leur centre d'intérêt, de leurs besoins. Nous avons déterminé quatre stades dans la continuité des uns des autres. De 2 ou 3 ans à 4 ou 5 ans, c'est ce qui correspond aux crèches. Il n'y a pas d'âge précis quant à l'entrée ou à la sortie de cette structure. Il dépend à la fois de l'évolution de l'enfant et des contraintes socio-économiques dans lesquelles se trouve la famille. 2 ans est le plus souvent prématuré. 5 ans peut être exceptionnel. Les crèches parentales limitent leur effectif à 12 enfants avec la présence de 3 ou 4 professionnels et adultes. Pour avoir été acteur dans une crèche parentale et avoir suivi pendant plus d'une vingtaine d'années le mouvement des crèches parentales dans l'association des collectifs enfants parents professionnels, la CEP, je considère cette structure comme répondant bien aux mêmes fondements, aux mêmes nécessités et aux mêmes finalités qu'une école du troisième type. Je vous en reparlerai certainement. De 4 ou 5 ans à 10 ou 11 ans, c'est le stade qui correspond à l'école primaire. L'expérience des classes uniques de troisième type a montré que ce peut être une unité pouvant même aller jusqu'à une trentaine d'enfants, si elle dispose de l'espace suffisant. La revendication d'un maître d'école pour 20 enfants n'est pas la bonne. Elle devrait être celle de 20 mètres carrés pour un enfant. Je reviendrai aussi sur cette notion fondamentale de l'espace vital nécessaire à chacun comme à tout collectif. Que l'on puisse passer d'une structure à l'autre à des âges différents n'est pas un problème dans une école du troisième type. Puisque celle-ci n'est pas fondée sur la transmission uniforme et collective de savoir par tranche d'âge, mais sur la réalisation des projets individuels dans un collectif à travers desquels se construisent les langages. Nous avons vu que l'école doit être une entité comme la famille est une entité. Mais pour que cette entité se constitue, il est nécessaire que ces acteurs puissent la percevoir et s'y percevoir, l'identifier et s'y identifier. Il faut qu'ils puissent être les auteurs de son auto-organisation. À ces âges, au-delà de 2 dizaines de personnes, cela devient de plus en plus difficile. Comme une école du troisième type est aussi nécessairement une école de proximité, nous y reviendrons aussi. Il peut arriver que la densité démographique fasse que dans la proximité, il y ait un nombre plus grand d'enfants dans l'espace scolaire. L'ensemble et l'espace peuvent être alors plus complexes à structurer, être moins figés. Ils peuvent ouvrir à d'autres possibilités, en particulier dans les interrelations entre professionnels, devant constituer alors eux-mêmes une entité. Mais les expériences en milieu urbain, comme à l'école Antoine Ballard de Montpellier, scindée en 10 classes uniques, montrent que ce que l'on peut appeler l'unité de vie de base pendant 4 ou 5 ans est bien la classe unique. Toutefois, comme plusieurs unités, appelons-les encore classes, doivent aussi s'insérer dans la vie et les interdépendances d'un ensemble les englobant, l'école. Nous pourrions l'appeler alors le village ou le quartier scolaire. Cet ensemble est lui aussi limité par les capacités relationnelles et sociales des enfants. Les frontières d'un espace scolaire ne devraient pas englober à ce niveau plus de 3 ou 4 unités, ce qui correspond aujourd'hui à 3 ou 4 classes. Le stade suivant est celui qui correspond actuellement au collège, de 10 ou 11 ans jusqu'à 14 ou 15 ans. Il peut faire partie du même espace que le précédent, ce qui existe parfois dans des écoles traditionnelles privées. Cependant, les centres d'intérêt et les besoins, y compris les besoins matériels, sont différents. L'extension des espaces abordables par les langages, comme l'extension de l'espace de proximité et de l'espace relationnel des adolescents, sont beaucoup plus vastes. Leurs possibilités de socialisation sont plus importantes. Il semble alors naturel que ces enfants devenus ou en passe de devenir des adolescents puissent se retrouver dans un nouveau lieu. Il sera toujours un lieu de proximité, mais dans une proximité plus large. Dans le collège de troisième type, se retrouveront alors les enfants de 4 ou 5 écoles pour y poursuivre, de la même façon mais dans un autre lieu, un autre contexte et un autre environnement, la construction de leur langage. Un collège de classe unique, mais moins cloisonné, plus perméable les unes aux autres, plus interdépendante. La seule expérience de classe multi-âge que je connaisse dans un collège est celle d'une 6e-5e à parcours personnalisé dans le collège de l'Île-Jourdain dans la Vienne. Expérience qui a été très probante, et c'est probablement pour cela qu'elle a été abandonnée. La taille optimum est alors une 100aine d'enfants. Les derniers petits collèges existants, comme celui de Saint-Martin de Valmeroux, qui pratiquait des pédagogies nouvelles, ont démontré cette réalité. Est-ce pour cela que l'on continue de les supprimer comme les classes uniques? Et nous arrivons au lycée. Les adolescents sont devenus de jeunes adultes. On ne peut plus parler de multi-âge. On peut même commencer à parler d'acquisition des savoirs. Je n'ai pas le temps dans cette chronique d'approfondir cela, mais on comprendra que la taille de cette structure a elle aussi des limites de viabilité, j'ai envie de dire de survie, que l'on peut estimer à celle de 4 ou 5 collèges de sa proximité, soit 400 ou 500 personnes, ce qui constitue déjà un petit village. Même si l'on restait dans la logique d'une école traditionnelle, il devrait apparaître à tout le monde, et surtout aux politiques, qu'il est urgent de cesser la concentration scolaire, qu'il est urgent de reconstruire un réseau scolaire tout simplement humain. Comment peut-on imaginer qu'un jeune enfant puisse passer brutalement sans dégâts de l'espace relationnel familial, parfois encore fusionnel avec sa mère, à un espace où l'on rassemble parfois plus d'une 100aine d'enfants, tout aussi désarmés que lui quant aux capacités affectives, relationnelles et sociales. Se rend-on compte qu'entassés quotidiennement, parfois des 100aines d'enfants, parfois plus de 1000 ou 2000 adolescents, dans un seul espace, c'est entassé un village ou un quartier ou une petite ville s'il s'agit d'un lycée, dans un seul bâtiment. On commence à admettre que l'entassement des habitats verticaux et concentrationnaires des adultes, violence en elle-même, provoque moult problèmes, aussi bien à ses habitants qu'à l'ordre social. On admet même que les milieux carcéraux ne peuvent rester inhumains. Mais cela ne vient pas encore à l'idée quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Comment alors s'étonner de la violence, du mal-être et même de ce que l'on appelle l'échec scolaire qui, à la limite, est beaucoup moins grave que l'impossibilité de vie dont il n'est que la conséquence. L'école actuelle est un espace asocialisant. Ce qui est plus grave, délibérément asocialisant. Cet aveuglement est sociétalement criminel. Nous procédons à notre propre génocide.